au Seigneur. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous fraternellement. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Emmanuel est avec nous. Alors, nous avons toutes les raisons, et du ciel et de la terre, d'être les uns avec les autres. Alors, saluez-vous fraternellement. Le temps de nous préparer à présenter, à consacrer ce beau cadeau que le Seigneur a accordé à cette famille. Gloire à Dieu. Merci. Vous savez que la natalité est aussi un facteur de croissance de l'Église. Alors, appel à tous les célibataires. Bien, c'est toujours un privilège de pouvoir se tenir devant le Seigneur avec une créature aussi merveilleuse qu'un enfant comme celui-là. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau qu'il fait non seulement au papa et à la maman ici présents, mais aussi à l'Église, mais aussi au monde. Nous devons être conscients, mes amis, que la vie n'a pas de valeur. Une âme est une âme, il n'y a que Dieu seul qui connaît sa valeur. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de mépriser une créature, quelle qu'elle soit. Tout ce qui est fait à l'image de Dieu mérite notre considération. C'est une grande responsabilité que d'avoir un enfant. Vous avez le devoir, mon frère et ma sœur, de pouvoir élever cet enfant dans la crainte de Dieu, de créer une atmosphère saine à la maison, d'avoir un foyer qui baigne dans les valeurs judéo-chrétiennes, de tout faire pour que cet enfant croisse en stature, certes, mais aussi en maturité. Et qu'alors qu'il grandira et que le moment sera venu de faire des choix pour l'éternité, eh bien qu'il fasse ce choix avec et pour le Seigneur. Donc nous allons non seulement, comme je le disais ce matin, présenter cet enfant au Seigneur, mais nous allons aussi le consacrer. Car nous voulons que cette vie, eh bien, puisse un jour être au service du Seigneur, et ce pour sa gloire. Puisque c'est un don que Dieu nous fait, je vais vous demander de vous lever. Apparemment, c'est l'heure de boire, hein? Voilà. Je vais vous demander de lever vos mains en direction de cet enfant et des parents pour demander la grâce du Père au nom de Jésus, non seulement sur cet enfant, mais aussi sur les parents. Prions tous ensemble. Père très saint, je me tiens devant toi avec ce cadeau, ce don merveilleux que tu nous fais, non seulement, Seigneur, nous en tant qu'Église, mais également aux parents et à la famille. Seigneur, je te prie de poser ta main et de bénir cet enfant. Je te prie, Seigneur, de donner aux parents les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir élever cet enfant dans la dignité, qu'ils puissent pourvoir à son éducation, qu'ils puissent, Seigneur, lui donner, lui communiquer les valeurs de ta parole. Oh, nous le bénissons dans le nom de Jésus et nous te prions de prendre soin de cet enfant, mais aussi des parents, au nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous te le consacrons, maintenant et pour l'éternité. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Maître. Amen. Merci. Encore une fois, félicitations. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Bien. Emmanuel est avec nous. Il nous invite à sa table à l'occasion de ce deuxième rassemblement dans le cadre de notre célébration dominicale. Il nous invite à table pour que nous mangions, car sa parole est une véritable nourriture. Il n'y a rien qui procure autant de bonheur, autant de joie au cœur que la parole de Dieu. Nous devons l'aimer. Alléluia. Nous devons l'aimer, nous devons la manger. C'est une parole extraordinaire. Alors sans plus tarder, je vous demande donc d'incliner vos têtes dans la prière. Et tous ensemble, nous allons nous préparer à recevoir cette nourriture que le Seigneur a préparée pour nous. Que chacun puisse se tenir très objectivement devant le Seigneur, qui lui demande de lui parler, de déposer quelque chose de neuf, quelque chose d'authentique sur son cœur. Seigneur, nous voici tournés vers toi, nous voici devant toi, pour recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun de nous. Nous savons combien ta parole est vitale, combien ta parole, Seigneur, est indispensable pour notre vie, alors que nous poursuivons notre pèlerinage ici-bas. S'il te plaît, parle-nous cet après-midi, Seigneur, Parle-nous et dépose ta pensée sur nos cœurs. Donne à manger, ô Dieu, à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Bénis chacun de nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Rassemblé devant toi et dans l'expectative de ce qui va venir de toi, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va partager cette parole. Donne-lui, Seigneur, la souplesse, la sensibilité de l'esprit pour qu'il puisse proclamer cette parole sous ton inspiration. Que cette parole touche les cœurs, ô Dieu, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle va sortir de la bouche de ton serviteur. Bénis-la, sanctifie-la, Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Très bon appétit. Gloire à Dieu. Vous êtes dans la joie. Eh bien, puisque vous êtes dans la joie, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et je vous inviterai à lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Hébreux 10, 19 à 23. Nous lisons. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, ou littéralement d'un cœur véridique, d'un cœur entier, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il est fidèle, frères et sœurs, celui qui nous a laissé tant de promesses dans sa parole. Il est fidèle. Non seulement il manifeste sa fidélité, mais dans sa personne, il est fidèle. Il n'est pas rare de rencontrer parmi les chrétiens évangéliques, de rencontrer parmi tous ceux qui se réclament du Christ, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et par amour pour lui font tout pour mener une vie marquée par la crainte de son nom, une vie d'abstention par rapport au péché. Car le péché, vous le savez, je me permets de vous le rappeler, quelque chose de terrible. C'est une sinistre réalité. La conséquence du péché, mes amis, c'est la ruine et la perdition éternelle. Des hommes et des femmes qui font tout pour plaire à Dieu, qui font tout, autant que faire se peut, pour lui être agréable. Mais en même temps, ces gens se posent la question de savoir pourquoi. Pourquoi, nonobstant cet engagement vis-à-vis du Seigneur, malgré cette consécration à lui, comment et pourquoi ils n'expérimentent pas la présence de Dieu dans leur vie? Ils viennent aux réunions dimanche après dimanche. Ils viennent aux réunions mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. Ils prient, ils jeûnent, ils parlent en langue pour certains. Mais cependant, lorsqu'ils se trouvent dans un besoin, ils ont l'impression que Dieu s'éloigne d'eux. Ou alors, ils seraient à des années-lumière d'eux. Ils vivent. Ils essayent de mener une vie qui soit confortable par rapport à la parole de Dieu, une vie qui soit en harmonie, qui soit au diapason avec la parole de Dieu. Mais ils n'expérimentent pas la présence de Dieu, malgré leur rejet du péché, malgré la haine du péché, voyez-vous. Mais il y a quelque chose. Et cette situation conduit à toutes sortes de frustrations. Il se demande pourquoi. Dieu serait-il plus avec les uns et moins avec les autres? Pas du tout. Le Dieu de la Bible est le même pour tous. Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous aime chacun du même amour. Dieu n'a pas de privilégiés. Dieu n'a pas une élite qui ferait l'objet d'un plus grand amour par rapport aux autres. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Peu importe, mes amis, ce que nous sommes, peu importe notre position sociale, peu importe l'état de notre tête, nous pouvons avoir des galons ou ne pas les avoir. Nous pouvons être bardés de toutes sortes de titres, académiques ou autres, mais par rapport à Dieu, il nous voit tous pareils.
Alléluia.
Tous pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi ces gens n'expérimentent-ils pas la présence de Dieu dans leur vie? Pourquoi ne le voient-ils pas dans leurs besoins, dans leurs expectatives par rapport à lui? Pourquoi? Pourquoi? C'est peut-être une question que vous vous posez ce matin. Vous dites, mais pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Je parle en langue, je fais ceci. Voyez. Eh bien, c'est pour répondre à cette interrogation que je vous inviterai à regarder avec moi autour et alentour de ce passage. Car il y a dans ce passage, mes amis, des vérités merveilleuses, des vérités extraordinaires, de nature à nous aider à comprendre justement pourquoi nous n'expérimentons pas Dieu dans notre vie. J'aurais dû commencer par le thème de mon message, au-delà du voile. Tout secours dont nous avons besoin, toute réponse de la part du Seigneur ne peut être reçue qu'au-delà du voile. Pourquoi? Eh bien, la réponse à cette interrogation, disais-je, se trouve dans ce passage. La parole de Dieu nous dit, « Ayant donc, frères, une pleine assurance pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant, au travers du voile, alors approchons-nous, dit la parole, approchons-nous d'un cœur vrai, d'un cœur véridique, dans la plénitude de foi ou de la foi. » D'autres versions disent, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une conscience morte. Gloire au Seigneur. La Bible nous apprend, et elle est formelle par rapport à ça, c'est que nous avons accès au sanctuaire du Dieu vivant. Amen. Nous avons accès, mes amis, auprès du trône de la grâce. Nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir entrer dans le Saint des Saints et d'avoir un face-à-face avec celui qui nous a créés à son image et qui nous a fait à sa ressemblance. Avec celui qui, par amour pour nous, a tout laissé pour venir nous chercher là où nous étions, dans nos péchés, dans nos offenses, dans notre rébellion, dans toutes sortes d'impuretés, de souillures. Cet accès a été rendu possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Puissions-nous réaliser cela? Qu'il n'y a pas de chemin, mes amis. Autant vous pouvez prendre plusieurs chemins pour aller à Kamba, autant vous pouvez prendre plusieurs chemins pour aller à Rome. Mais quant au ciel, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin ne passe pas par une religion, une pratique religieuse, quelle qu'elle soit, mais plutôt par une personne. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Il a inauguré une voie, mon frère et ma sœur. Il a ouvert le chemin pour que l'homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa condition morale, intellectuelle ou autre, puisse avoir accès auprès du trône de la grâce. Car toutes les solutions idoines à nos problèmes se trouvent au-delà du voile. Tout ce dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, pour une vie plus extraordinaire, plus heureuse, tout cela se trouve au-delà du voile. Voilà pourquoi la Bible insiste. Puisqu'il en est ainsi, alors approchez-vous de Dieu. Nous naissons esclaves du péché, vous le savez. Je ne vous apprends rien de neuf. Nous naissons, mes amis, avec cette capacité ou cette incapacité de pouvoir approcher Dieu. Nous n'apprenons pas à être pécheurs. Nous sommes pécheurs de par notre nature. La Bible nous dit tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous ? Tous, à cause du péché, sont sur la voie de la perdition. Mais Dieu, dans son amour, a préparé un chemin de salut, un chemin de réconciliation, un chemin qui conduit à la vie, car le péché est destructeur. Même s'il y a une certaine jouissance dans le péché, comme je le disais ce matin, même s'il y a du plaisir, oui, c'est parce qu'il y a le plaisir dans le péché que les gens pêchent. Oubliant, c'est qu'en plaignant dans cette vie-là, oubliant même que la douceur du miel ne consolera jamais de la piqûre d'abeille. Dieu déclare formellement que nous pouvons avoir accès au sanctuaire, qui est le lieu où il habite. Amen. Dieu ne serait pas sur une galaxie à des années-lumière d'ici, mes amis. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Christ est mort à la croix de Golgotha, lorsqu'il a expiré, la Bible nous dit, une des conséquences de sa mort, c'est que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. À partir de ce moment, dès cet instant, mes amis, Dieu a changé de lieu d'habitation. Désormais, le Dieu des cieux, Adonai, Emmanuel, Dieu avec nous, habite un nouveau temple. Ce nouveau temple, eh bien, c'est l'être humain né de nouveau. Tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui a expérimenté la vie du Christ, celui-là est devenu le temple de Dieu. C'est pourquoi Paul écrivant aux Corinthiens leur dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Il est affirmatif, mes amis. Il est affirmatif quand il dit cela. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Quand il parle ainsi, il ne parle pas du bâtiment qui abritait l'Église à l'époque à Corinthe. Non, il parlait de leur corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, ajoute-t-il, Dieu le... De quel temple parlait-il? C'est de ce corps, mes amis. Nous avons la responsabilité de veiller sur ce corps. Si nous livrons ce corps comme instrument d'injustice, si nous ne faisons que satisfaire les désirs pervers de ce corps, tôt ou tard, nous aurons affaire à celui à qui appartient ce corps. Aujourd'hui, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous sommes libres. Dieu nous a créés avec ce libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir, d'orienter notre vie comme nous le voulons. Mais sachons qu'un jour, tôt ou tard, nous devrions nous tenir devant lui pour lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré ce corps. Ce nouveau temple, c'est l'être humain né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau, c'est une expérience par laquelle nous devons tous passer. Car lorsque nous faisons cette expérience, après avoir reçu Christ dans notre vie, eh bien nous devenons le temple de Dieu. Dieu vient habiter en nous. Il dresse son trône en nous. Oh, gloire au Seigneur. C'est une des grandes révélations du Dieu de la Bible. Dieu n'a plus un lieu où il faille aller pour le rencontrer, pas du tout. Dieu ne se trouve pas sur la lune ou que sais-je, quelque part. Dieu habite le cœur de tout celui qui reçoit Jésus. Quand Jésus est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Quand Jésus est en nous, le Père est en nous. Quand Jésus est en nous, tout le ciel est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous possédons tout, même si pour le moment nous ne jouissons pas. Même si aujourd'hui, présentement, nous ne voyons pas que nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. Mais un jour viendra où nous vivrons pleinement notre dignité d'enfant de Dieu, avec toutes les conséquences que cela entraîne. La Bible est formelle. Dieu vient habiter en nous. Puisqu'il habite en nous, alors, lorsque nous nous approchons de lui, car telle est l'invitation qu'il adresse à tout homme, quel qu'il soit, et qui est en Christ, c'est d'approcher de lui. Eh bien, lorsque nous nous approchons de lui, eh bien, nous le cherchons où c'est? Pas en dehors, mais en... C'est très simple. Donc, point de besoin de se torturer l'esprit en essayant de s'imaginer que Dieu serait quelque part et puis d'amorcer un voyage spirituel, je ne sais pas, qui prendrait autant de millions d'années-lumière. Et puis tout d'un coup, voilà, je suis maintenant dans la présence de Dieu. Vous savez, dans la plupart du temps, nous lions Dieu à notre effort intellectuel. Nous travaillons toute la journée. Nous courons à cause de ceci, à cause de cela. Nous ne pensons pas toujours à Dieu. Et quand nous venons le soir à la maison, avant de prier, eh bien, nous essayons de faire un effort. Un effort d'aller chercher Dieu quelque part où nous l'aurions laissé quelque part. Voyez-vous, Seigneur, viens, ok. Tu es là maintenant, Seigneur, je peux te parler. Voyez-vous? C'est parce que nous n'avons pas attaché beaucoup d'importance à cette vérité que nous avons minimisé, mes amis, la notion même de sainteté. Car si nous pouvions comprendre et avoir présent à l'esprit constamment cette pensée selon laquelle nous sommes le temple de Dieu, alors nous ferions tout pour garder ce corps dans la sainteté. Alléluia! Vivre cette réalité, mes amis, serait une grande bénédiction pour nous. Imaginez-vous un peu, si je sais que mon frère qui est assis là est le temple de Dieu, pourquoi chercherais-je alors à nuire à sa vie? Parce que le Dieu de Dieu habite en lui. Si je suis convaincu que le Dieu qui habite en moi habite aussi dans la vie de mon frère, eh bien je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer davantage. Car le même Dieu qui habite en moi habite aussi dans mon frère. Alléluia. Si nous pouvions intégrer cette vérité, mes amis, nous vivrions une communion fraternelle extraordinaire. Beaucoup de barrières tomberaient, mes amis. Nous pourrions être un, comme le Seigneur nous appelle. Gloire à Dieu. Mais le problème que nous le verrons dans la suite, c'est là. La Bible nous dit, approchez-vous avec un cœur véridique. Approchez-vous avec un cœur vrai, avec un cœur entier. Donc le problème se situe en nous, pas en dehors de nous. Il est beaucoup plus facile de jeter la balle aux démons. Vous savez, avec l'arrivée de toutes ces églises dites des réveils, dont la plupart sont des véritables marchands de sommeil spirituel, on a vu arriver toutes sortes d'enseignements, des doctrines bizarroïdes sur le combat spirituel. Voyez-vous, pour peu que quelqu'un ait des problèmes, et puis voilà, on va commencer à chercher le bouc émissaire, un démon qui serait caché quelque part, qui viendrait je ne sais de quelle lignée, soit du côté de la mère ou du côté du père. Voyez-vous, il y en a qui voient les démons partout. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est un démon. Ainsi, il se retrouve avec une vision chrétienne où les démons sont omniprésents, ou omniprésents. Et bien, je vais vous dire une chose. Une telle vision de la vie chrétienne vous créera beaucoup de problèmes. Car ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas de connaître combien de démons il y a. Voyez-vous ? Quelle est la hiérarchie dans le monde des ténèbres ? Ce qui est important, ce n'est pas de savoir quelle est la couleur de l'ange Gabriel ou Michael. Qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit... Peu importe ! Ce qui est important, c'est Jésus. Connaître Jésus et Jésus seul. C'est la connaissance du vrai qui vous mettra à l'abri du faux. Ainsi, on les voit partout. Voyez-vous? Et une des conséquences de vivre avec une vision dans laquelle les démons sont omniprésents, les esprits mauvais sont toujours là, eh bien, c'est que beaucoup ont fini par développer un comportement paranoïde. Ils sont paranoïdes. Ils voient les démons partout. Il suffit que quelqu'un les regarde... au nom de Jésus. Voyez-vous, et ça crée la méfiance. Pour peu que quelqu'un s'habille d'une certaine manière, on commence à le regarder avec des yeux. Et il faut avoir le discernement. T'as vu, lui met toujours une cravate rouge, voilà, comme lui. Lui met toujours une cravate bleue, comme le pasteur. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous pensez que les démons viennent parce que vous êtes habillé d'une certaine manière? Non, non, non. C'est que Dieu veut que nous le connaissions, lui, plus que toute autre chose. C'est en grandissant dans cette connaissance que nous pourrions alors recevoir les informations indispensables par rapport au monde des ténèbres. Ce n'est pas ça la tâche première, voyez-vous. Alors aujourd'hui, tout le monde court après tous ces ministères qui tournent ou qui orbitent autour du combat spirituel. Voyez-vous, en réfléchissant, je me suis dit, quelque part, si les gens vont ça et là, pour essayer d'avoir ou de recevoir des enseignements sur le combat spirituel, c'est parce que nous, les pasteurs, nous avons laissé ce créneau vide. Alors, quelques aventuriers s'en sont engouffrés. Ils ont fait du combat spirituel leur spécialisation. Oui ou non ? Au point où certains pensent que lorsqu'il s'agit du combat spirituel, eh bien, il faut absolument aller voir tel bishop, tel archébishop, tel souverain sacrificateur, tel super pasteur. Non, c'est une réalité biblique. Voilà pourquoi nous devons enseigner aussi sur le combat spirituel, afin que les gens sachent exactement ce que Dieu attend de nous par rapport à tout ça. Gloire à Dieu. Nous avons une pleine assurance D'autres versions disent, nous avons une pleine liberté d'entrer au-delà du voile. Car c'est lorsque nous passons, nous allons au-delà du voile, que nous pouvons rencontrer Dieu et expérimenter sa présence dans nos préoccupations quotidiennes. C'est au-delà du voile que nous pourrions recevoir un vrai attouchement. C'est au-delà du voile, mes amis, que sa présence peut nous être accordée. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, tous nos problèmes trouvent solution. Car pour lui, rien n'est un. Tout est possible avec notre Dieu. Alléluia. Tout est possible. Il est celui qui dit simplement. Et la chose arrive. La Bible nous le présente comme étant celui qui appelle à l'existence les choses non existantes, littéralement. Les choses non existantes. Il les appelle à l'existence et les choses deviennent des réalités palpables et tangibles. Gloire à Dieu. Le Seigneur a inauguré ce chemin. Et ceci n'est pas un scénario aléatoire. Non, c'est un fait, mes amis. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et recevoir tout ce dont vous avez besoin. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est clair. Mais alors pourquoi les gens n'expérimentent pas sa présence? Pourquoi alors que les gens s'évertuent à s'approcher de lui pour le rencontrer dans leurs besoins, pourquoi rien ne se passe? Eh bien, la réponse se trouve dans cette expression que nous trouvons au verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Amen. La réponse se trouve dans cette expression, foi pleine et entière, ou littéralement la plénitude de foi. Donc c'est la condition sine qua non, mes amis, de pouvoir passer à travers le voile et d'aller au-delà pour rejoindre le Seigneur, là où il est. Gloire à Dieu. Nous devons donc nous approcher par la foi. C'est la foi qui va nous permettre d'entrer et d'aller au-delà. Oh, c'est si simple. Nous le savons tous. Mais ce n'est pas si simple que ça. Car s'il y a, mes amis, s'il y a une vérité qui demande, voilà, plus de lumière de la part du Seigneur, c'est bien, mes amis, la notion de la foi. Quelquefois, lorsque nous voulons définir la foi, nous allons tout de suite vers Hébreux 11, voyez, verset 1er. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Et puis point. Mais je vais vous dire une chose, ça ce n'est qu'un aspect. La foi est beaucoup plus complexe. La foi reste un mystère. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Certes, c'est une notion dans certains milieux à géométrie variable. Il y en a qui disent que j'ai la foi catholique, j'ai la foi protestante, j'ai la foi pentecôtiste. Voyez-vous, on colle toutes sortes d'étiquettes sur la foi. Mais ce n'est pas de cette foi dont nous parlons. La pleine foi, l'entière foi, voilà ce dont nous avons besoin pour aller au-delà du voile. La Bible nous dit, dans Hébreux 11 justement, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Il est impossible de lui plaire. Et la Bible d'ajouter, verset toujours 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est, littéralement, où Dieu existe, mais c'est Dieu est. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui, il donne un salaire, il rétribue tous ceux qui les cherchent. Non pas en dehors du sanctuaire, non pas devant le voile, mes amis, mais ceux qui arrivent à pénétrer et aller au-delà du voile, ceux-là, et mes amis, ceux-là expérimentent le salaire de leur travail. Et nous verrons en quoi consiste ce travail. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Donc, s'il faut la foi pour lui plaire, pour lui être agréable, Dieu cherche alors quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Quelqu'un qui croit. Crois-tu, mon frère et ma sœur? As-tu la foi? C'est la foi qui fait bouger Dieu et non pas le jeûne, car on peut jeûner sans avoir la foi. On jeûne parce que tout le monde jeûne. Aujourd'hui, dans certains milieux, le jeûne est présenté comme étant une recette magique. Voyez-vous? On se vautre dans toutes sortes d'insanités morales, dans toutes sortes de souillures spirituelles ou autres. On mène une vie des rapines. Et dès qu'on est confronté à une épreuve, tout de suite, oh, je vais jeûner. Je vais jeûner afin que ce problème soit résolu. Voyez-vous? Vous pensez que Dieu peut être manipulé par votre jeûne? Voyez-vous? Non, mes amis, ce n'est pas le jeûne qui va vous faire entrer dans la présence de Dieu. On peut jeûner sans que derrière ce jeûne, nous trouvions la vraie foi, cette foi pleine et entière. D'autres vous diront, il faut simplement prier. Mais tout le monde prie. C'est quoi la prière? Voyez-vous, c'est ça le problème. Ce n'est pas la prière qui va vous faire entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez venir ici tout de suite, aussitôt arrivé, vous vous mettez à chanter en langue, à prier en langue, et tout de suite à crier, à sauter, sans que vous arriviez à entrer dans la présence de Dieu, mes amis. Tout passe par la foi. Entrez dans sa présence. Approchez-vous. Passez à travers le voile par et au travers d'une foi pleine et entière. Gloire à Dieu. C'est la foi et la foi seule. Car cette foi biblique consiste à croire que Dieu dit bien ce qu'il dit et il fait bien ce qu'il a dit. Amen. C'est ça la foi. Il fait ce qu'il a dit. S'il en est ainsi, alors nous voyons là une des lois du royaume de Dieu. Un des principes intemporels qui régit, qui gouverne, mes amis, le royaume de Dieu. Une des lois qui peut nous permettre à expérimenter le règne de Dieu. Car il y a une différence d'être dans le royaume de Dieu et d'expérimenter le règne de Dieu. Vous savez ça? La confusion vient souvent du texte même. Grec, comme vous le savez, tout le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Et il n'y a qu'un seul terme en grec pour parler et du règne et du royaume. C'est le basileia, c'est tout, qui a donné d'ailleurs basilique. C'est ainsi que vous verrez dans la même Bible, ou dans différentes versions, par endroit, c'est le royaume, chercher le royaume de Dieu. Vous allez dans une autre version, vous voyez que c'est chercher le règne de Dieu. Mais mes amis, il y a une nuance. On peut être dans le royaume et par ignorance des lois qui régissent le royaume, ne pas expérimenter le règne de Dieu. Tous ceux qui vivent en Belgique savent qu'ils vivent dans un royaume, non? Vous pouvez être en Belgique, dans le petit royaume de Belgique, jouir de tant d'avantages parce que vous êtes dans ce royaume, parce que vous êtes sur le territoire de ce royaume. Mais il n'y a qu'une seule famille qui règne, c'est la famille des Saxe-Cobourg, de laquelle est issu le roi Albert, et puis maintenant c'est son fils, le roi Philippe. Il n'y a que eux qui règnent, oui ou non? Nous tous là, nous roulons, nous allons de ville en ville. Voyez-vous, nous profitons de quelques miettes qui tombent. Nous sommes comme ces petits chiens, mais ce sont eux qui se partagent le gros morceau. Ce sont eux qui mangent. Parce qu'il n'y a que eux qui sont habilités à régner. Voyez-vous, même si c'est une monarchie constitutionnelle, enfin peu importe. De même, c'est une chose d'être dans le royaume de Dieu. Et nous entrons dans ce royaume par la nouvelle naissance. Mais ça n'est une autre d'expérimenter le règne de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de l'autorité, du pouvoir de Dieu. Et Jésus est venu non seulement annoncer le royaume de Dieu, mais aussi de manifester le règne de Dieu. En manifestant le règne de Dieu, eh bien, il a fait marcher les paralytiques. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a multiplié le pain. Il a marché sur les eaux de la mer. Il a fait marcher les paralytiques. Ça, c'est la manifestation du règne de Dieu. Mais cette manifestation est régie par des principes. Et dans ce passage, nous voyons un des principes qui permet à tous ceux qui font partie du royaume d'expérimenter la manifestation de Dieu. Eh bien, ce principe, c'est que tout ce que nous recevons du Seigneur, nous le recevons par la foi. Et ce principe, c'est quoi? C'est que Dieu, écoutez-moi bien, c'est que Dieu ne réagit pas à nos besoins. Dieu ne réagit pas à nos besoins. Le Seigneur, quand il regarde Kinshasa, eh bien, nous pourrions dire qu'il regarde Kinshasa avec un regard d'amour, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur aime tous les Kinois? À commencer par moi. Vous doutez ou quoi? Eh bien, le Seigneur nous aime. Mais regardez tout autour de nous. Il y a tant de besoins. Combien de gens sont malades? Allez dans nos hôpitaux. Combien de gens courent ça et là parce qu'ils sont confrontés à telle ou telle autre difficulté? Cependant, Dieu ne répond pas tout de suite à leurs besoins. Vous-même qui êtes là, tout en étant dans le royaume, vous avez peut-être de besoins. Vous êtes venu en disant, Seigneur, je voudrais que tu me rencontres dans mon besoin. Voyez-vous, Dieu ne réagit pas à nos besoins. Non, Dieu réagit à notre foi. Dieu réagit à notre foi. Puisqu'il réagit à notre foi, alors faisons tout pour passer au-delà du voile. Faisons tout pour aller là. Et le mécanisme, ce qui va nous permettre d'y arriver, c'est bien la foi. Nous trouvons cette vérité à travers tout le Nouveau Testament. Nous n'avons pas le temps d'aller voir les différents passages dans lesquels cette loi est mise en action. Les différents passages où nous voyons cette loi, eh bien, s'est manifestée pour la plus grande bénédiction de ceux qui l'ont déclenchée. Mais je voudrais simplement épingler l'un ou l'autre exemple qui illustre cette vérité. Il y a la guérison du serviteur du centenier, cet officier romain, dans Matthieu 8. La Bible nous dit que cet officier romain avait son serviteur et celui-ci était paralysé. Il était couché à la maison et violemment tourmenté. Cet officier est allé voir le Seigneur. Il a intercédé pour son serviteur. Il a dit, Seigneur, voilà, mon serviteur est malade. J'aimerais que tu le guérisses. Le Seigneur le regarde et lui dit, très bien, moi, j'irai le guérir. Je me déplacerai pour aller le voir et lui apporter la guérison. Tout de suite, le centenier réagit. Seigneur, non, non, il ne faut pas aller, car je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. C'est un officier. Je ne sais pas combien de galons il avait, mais il a réalisé qu'en face de Jésus, tous nos galons tombent. En face de Jésus, notre position sociale tombe. En face de Jésus, eh bien, nous sommes comme des vers. Nous sommes nus, comme le ver de terre, comme des limaces. Seigneur, non, je suis indigne. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur s'arrête. Il regarde, la Bible nous dit, Jésus rempli d'admiration. Oh! Qu'est-ce qui a rendu le Seigneur admiratif par rapport à cet homme? Sa tenue militaire? Je vous pose la question. Hein? Parce que c'était un bon sapeur? Je ne sais pas comment. Hein? Parce qu'il avait la bague ou la chevalière? Je ne sais, d'archebishop ou que sais-je. Est-ce que c'est le titre? Non. La Bible nous dit, Jésus rempli d'admiration, lui dit... Il s'adresse d'abord à ses disciples. Il leur dit, en vérité, amen, en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une si grande foi. Oh, gloire à Dieu. Ce qui a amené le Seigneur à être admiratif par rapport à cet homme, c'est bien la foi. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de te déplacer. Il suffit simplement de dire un mot et la chose s'accomplit. Tu guéris non seulement lorsque la personne est à quelques encablures de toi, tu guéris aussi même à distance. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle foi extraordinaire! Maintenant, regardons. Qu'est-ce qui caractérise la démarche de cet officier romain? C'est l'humilité, oui ou non? Un homme humble. Un homme qui a réalisé que devant Dieu, point n'était besoin d'avoir un gros coup, de vouloir gonfler son thorax. Non, il s'est fait petit. Mais le Seigneur n'a pas regardé à son humilité. Car quelquefois, il y a des gens qui sont orgueilleux dans leur humilité. Vous savez ça? Frère, ce n'est pas l'humilité. Ah, Dieu m'a dit, je ne peux pas serrer la main. Mais pourquoi le dire alors? C'est une fausse humilité. Nous aurons le temps d'étudier un peu cette notion d'humilité, car elle est fondamentale. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. De quelle humiliation parlait-il? Donc, ce que le Seigneur a vu dans cet homme, ce n'est pas tant son humilité, mais plutôt c'est la foi qu'il a honorée. Gloire au Seigneur. La femme syrophénicienne dont il est question dans Luc 15 ou Matthieu 15, eh bien, la Bible nous dit que cette femme avait une fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Sa fille était sous l'emprise des puissances des ténèbres. Cette femme a entendu parler du Seigneur. Elle est allée le voir. Elle a crié après lui. Mais la Bible nous dit que Jésus ne lui répondit point. Il ne dit aucun mot. Vous vous rendez compte? Il y avait de quoi se sentir offusqué. Hein? Seigneur, Seigneur, non. Le maître part, il continue sa marche. Elle crie au point où les disciples interviennent en disant, mais madame, calme-toi. Hey, tu cries comme une folle. Qu'est-ce que tu as bu? Le lotoco ou quoi? Mais cette femme a continué. Le Seigneur s'arrête et lui dit, mais madame, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Elle a continué, elle est venue se jeter à ses pieds. Elle lui a dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours. Le Seigneur finalement lui répondit, lui dit ceci, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible nous dit, et à l'heure même, à l'instant même où le Seigneur prononce cette parole, eh bien, sa fille fut guérie, débarrassée de ses démons, débarrassée de l'oppression démoniaque. Qu'est-ce qui a amené le Seigneur à agir? Ou avant ça, qu'est-ce qui caractérise cette femme? C'est sa persévérance, oui ou non? Elle persévère, elle dit, elle crie. Elle a l'impression que le Seigneur est indifférent à sa requête, à sa demande, à son cri. Non, mais elle ne s'arrête pas. Finalement, sa démarche de foi va porter du fruit. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur n'a pas vu sa persévérance. Nous avons tant d'exemples, mes amis, qui nous montrent la nécessité de la foi. Nous devons agir, marcher par la foi. Car c'est la foi qui fait bouger Dieu. Gloire à Dieu. C'est la foi qui amène Dieu jusqu'à nous, à nous rencontrer dans nos problèmes. Mais encore, il faut savoir de quelle foi il s'agit. Oui, la foi est la clé. Et la clé, mes amis, pour recevoir toute chose. Et ce principe est valable pour tout. Pour toute chose dans le royaume de Dieu. Jacques, pas Chirac, hein, l'apôtre, affirme que lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous lui adressons des requêtes, eh bien, il dit que nous devons le faire, dans Jacques 1, 6 à 7, avec foi, sans douter. Sans douter. Ces paroles sont d'une limpidité déconcertante. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre cela, oui ou non? On n'a pas non plus besoin d'être un agrégé de français ou je ne sais quoi pour pouvoir comprendre ce que la Bible nous dit là. Que celui qui demande, celui qui prie, prie avec foi, sans douter. Et l'apôtre ajoute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez? Et enfin il dit, qu'un tel homme, qu'une telle femme, pourrais-je ajouter, ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Voilà. Nous nous approchons de Dieu, nous lui demandons quelque chose. Et quelquefois nous nous demandons même
si Dieu nous a s'est rendu compte que nous étions là. Vous vous rendez compte? Alors on parle en l'air. Seigneur béni, amen. On a fait son devoir religieux. Sa conscience est tranquille. Oui, j'ai prié à la borne. Vous voyez? On pense que Dieu a écouté. Oui, il entend. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Mais ce n'est pas de cette manière que nous allons amener Dieu à bouger. Trop souvent, les croyants s'approchent de Dieu dans la prière en lançant des mots comme par hasard en l'air, en espérant qu'ils seront entendus par Dieu, sans trop croire que Dieu entend, que Dieu écoute. Comment voulez-vous que Dieu puisse bénir votre requête? Mes amis, c'est la foi qui nous ouvre l'accès à la présence de Dieu. C'est la foi qui nous amène au-delà du voile. C'est la foi qui va amener Dieu là où nous sommes. Pas en dehors, pas devant le voile, mes amis, mais plutôt au-delà du voile. C'est la foi qui amène en nous Dieu afin qu'il nous rencontre dans nos besoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, c'est au-delà du voile. C'est au-delà du voile que le Seigneur nous attend. Voilà pourquoi l'exhortation d'aujourd'hui consiste à aller au-delà du voile. Mais ce n'est pas la prière qui nous y amènera, car on peut prier sans la foi. Ce n'est pas le jeûne qui nous permettra d'aller au-delà du voile, mais c'est la foi. Mais alors une foi pleine, une foi entière, qui nous amènera au-delà du voile et qui amènera Dieu à devenir notre rémunérateur, c'est-à-dire celui qui nous rétribue, celui qui nous récompense. Voyez-vous, la Bible parle des rémunérations, parle des récompenses, qu'au terme de cette démarche qui est mue, sous-tendue par la foi pleine et entière, il y a un salaire, il y a une récompense, alléluia, il y a une rétribution. Et puisqu'on parle de rémunération, cela suppose qu'il y a eu au préalable un travail accompli pour lequel on va être rémunéré, oui ou non? Oui ou non? Puisqu'on parle de rémunération, cela suppose qu'il y a eu au préalable un service rendu. Et par rapport à ce service rendu, par rapport à ce travail accompli, eh bien, Dieu donne une rémunération. Gloire à Dieu. Mais alors, quel travail? Et ça, c'est la question fondamentale. Quel travail devons-nous accomplir? Quel service devons-nous rendre pour que cette foi pleine et entière naisse, croisse et nous amène in fine au-delà du voile afin que nous expérimentons Dieu dans nos vies? Quel travail? Eh bien, la foi, ça nous le verrons au prochain épisode. Mais brièvement, la foi a une substance. La foi, c'est une semence. Vous savez, quand vous prenez une semence, il y a dans ce petit grain tout un potentiel. Oui ou non? Il peut y avoir dans ce petit grain tout un arbre, grand comme ou gros comme un baobab. Mais dans ce petit grain, dans cette petite semence. Mais tant que vous l'avez en main, rien ne se passera. Hein? Pour que cette semence devienne un jour un arbre et produise beaucoup de fruits, il faudra bien la jeter en terre. Et ce qui va permettre aussi, qui va favoriser la germination, c'est l'état du sol, oui ou non? Car vous pouvez avoir une bonne semence, mais lorsqu'elle tombe sur un terrain pierreux, sur un sol marécageux ou que sais-je, ou le long de la route, eh bien cette semence ne portera jamais du fruit. Il en est ainsi de la foi. C'est une semence. Comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Cette semence vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais aussi, et c'est la raison pour laquelle l'auteur inspiré précise, non seulement nous passons, nous entrons au-delà du voile avec une foi entière et pleine, mais avec un cœur débarrassé d'une conscience mauvaise, un cœur purifié. Et nous allons voir dans la suite que l'état de notre cœur est fondamental. La nature de notre état moral, notre état spirituel, mes amis, est aussi important que la semence, car vous pourriez la voir,
mais il faut bien qu'elle tombe quelque part pour qu'enfin elle produise du fruit. Donc il y a un travail à faire. Il y a un service à rendre. Et c'est au terme de ce travail, au terme de ce service, qu'alors celui qui se révèle à nous comme étant le rémunérateur pourra nous donner ce dont nous avons besoin. Alléluia. Oui, mes amis, nous devons aller au-delà du voile. Nous devons aller au-delà. Et pour y aller, ce n'est pas la prière, car on peut prier sans la foi. Pour y aller, ce n'est pas le jeûne, car on peut jeûner sans la foi. La Bible est claire, c'est la foi et la foi seule. Mais alors, une foi pleine et entière, qui seule peut nous permettre de passer, d'aller au-delà du voile et d'expérimenter le Dieu de la Bible, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, faisons tout pour nourrir notre foi. Faisons tout, tout, pour permettre un cadre, pour créer les conditions qui permettent à la foi biblique de naître, de croître. Alors, cette foi-là pourra nous permettre d'expérimenter des grandes choses. C'est cette foi que le Seigneur appelle la foi de Dieu. C'est une chose de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, c'en est une autre d'avoir la foi de Dieu. C'est ce qu'il a dit à ses disciples, je termine là, dans Marc 11, à propos du figuier qu'il avait maudit. Il a dit un mot, il s'est dirigé vers un figuier, s'attendant à ce qu'il puisse cueillir. Certes, ce n'était pas la saison des figues, mais le Seigneur connaissait très bien ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle des figues tardives, voyez-vous, qui poussent, mais hors saison. Il s'attendait à ça, mais il n'a pas trouvé ça. Il a prononcé une parole de malédiction. Et ce figuier sur le champ a séché. Le lendemain, il repasse par le même chemin. Pierre s'arrête. Il regarde le figuier maudit. Il dit, mais c'est extraordinaire. Il a simplement prononcé un mot. Et voilà les résultats. Formidable. C'est magnifique. Il se tourne vers le Seigneur. Seigneur, regarde. Regarde le figuier que tu as maudit. Et le Seigneur va saisir cette occasion pour leur donner une leçon sur la vraie foi. Il commence par ceci. Ayez foi en Dieu. C'est ce que nous avons dans nos traductions. Mais littéralement, il dit, ayez la foi de Dieu. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et s'il croit dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit là va arriver, eh bien, il verra la chose arriver. Alléluia. C'est pourquoi, ajoute-t-il, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez le lien? Le lien vital, organique, je ne sais pas comment, entre la foi et la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et littéralement, cela sera à vous. C'est la foi biblique. C'est la foi de Dieu. C'est la seule qui puisse nous amener au-delà du voile. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à incliner simplement vos têtes dans la prière. Nous voulons réagir par rapport à cette parole. Car ça ne sert à rien de la recevoir et de ne pas la laisser le temps d'incuber en nous, le temps de prendre racine en nous. Nous avons besoin qu'il nous aide. C'est la foi et la foi seule, mes amis. Et cette foi prend sa racine dans la parole de Dieu. C'est peut-être ton cas ce matin, tu as compris. Et tu as besoin que le Seigneur te visite dans le domaine de la foi. Tu as besoin que le Seigneur affermisse, consolide ta foi. Car tu es pris. Alors, demande-lui là où tu es. Dis, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, aide-moi à croire à chaque fois que je m'approche de toi. Aide-moi à te faire confiance toutes les fois, Seigneur, que je m'approche de toi, afin que j'arrive à passer à travers le voile et à te rencontrer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout. Ta parole est merveilleuse. Ta parole est bonne. Seigneur, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Aide-nous, ô Dieu,
à nous laisser enseigner par toi, à nous laisser instruire par toi, car il n'y a que ce qui vient de toi qui peut susciter la véritable foi en nous. Il n'y a que ce qui vient de toi, ô Dieu, qui peut créer les conditions favorables dans nos vies pour l'émergence, Seigneur, pour la germination de la foi et sa croissance. Aide-nous. Seigneur, merci. Merci également de poser ta main de bénir ces offrandes alors que les paniers vont circuler. Merci pour tous ceux qui donnent par amour pour toi, pour tous ceux qui t'aiment et qui manifestent leur amour en soutenant cette œuvre ici à la borne, par leurs finances, que ce soit sous forme d'offrandes, sous forme de dîmes ou sous forme de simples dons. Bénis, Seigneur, chacune de ces personnes dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pour que mon épouse soit avec moi. Qui va prier? Donc voilà. Mais en attendant, n'oubliez pas notre séminaire qui commence au mercredi sur le thème onction ou séduction. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, plus de vérité sur la séduction telle qu'elle sévit dans ce temps que la Bible qualifie des dernières heures, des temps de la fin, eh bien, venez nous rejoindre ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi. Et là, nous apprendrons tout ce que Dieu a à nous apprendre à propos donc de ça. Je vous informe également qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons conjuguer des efforts pour pouvoir changer des sièges. Comme je disais au premier culte, il y a des bancs qui vont avoir presque 30 ans. Vous savez ça? Qui m'ont vu quand j'étais célibataire. Quand j'étais encore fin là. Hein? Oui ou non? Enfin, ceux qui me connaissent. Ces bancs-là, ça va bientôt faire 30 ans. Et j'ai vu l'état de certains, c'est un état déplorable. Quelquefois, les gens, je suppose, doivent faire attention quand ils s'assiedent, de peur de ne pas se retrouver avec un pantalon déchiré, ou alors de se retrouver avec une écharde dans la main. Donc, ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, nous lançons donc un appel à quiconque voudrait nous aider à acquérir de nouveaux sièges dignes de notre assemblée, dignes du Seigneur, de pouvoir se manifester, soit tout au long du séminaire. Nous aurons à revenir sur ce communiqué à tous les dimanches, à chaque fois que nous nous rassemblerons. Donc, mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, l'opération est lancée. Vous pouvez voir le secrétariat pour donner votre contribution. Ou alors désormais, les comptes de l'Église passent là. Donc, vous voyez les comptes. C'est seulement sur ce compte qu'il faut verser. Si vous voulez faire un geste pour l'Église. Ça va? Donc voilà, les comptes sont là. Donc vous pouvez, mais alors il faut bien libeller, il faut bien communiquer pour achat à siège. Ça va? Ou alors vous pouvez vous-même venir. Mais prions, je voudrais que d'ici, avant la fin de l'année, que nous puissions avoir de nouveaux sièges. Alléluia! Est-ce que vous croyez avec moi que cela est possible? Mais tout est possible. Donc, et puis les paroles de chant, vous voyez que ça défile, ça vous permet de pouvoir chanter en suivant tout cela sur nos écrans. Et la dernière chose, voilà, il y a ça et ça, et donc c'est tout. Comment? Non, ça va. Ok, donc voilà. Nous arrivons au terme de notre célébration dominicale. Nous avons commencé dans la joie. Je voudrais que nous terminions dans la joie. Souriez. Hein? C'est vrai que l'estomac réclame. Mais je suis très content de pouvoir œuvrer avec vous dans le cadre de l'œuvre de Dieu ici à la borne. Mon épouse et moi sommes très honorés de pouvoir, avec vous et avec tant d'autres qui viendront se joindre à nous, écrire ou continuer à écrire cette page de l'histoire de la borne qui a commencé depuis 1984 avec son serviteur Jacques Verneau. Nous voulons être de ceux qui vont s'inscrire dans cette vision et aller au-delà.
Alléluia.
Alors, j'attends de chacun de vous que vous puissiez vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous écrivions cette nouvelle page.
Alléluia.
Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est votre Église. Les hommes passent, mais l'œuvre de Dieu demeure. Alors, priez, continuez à prier pour cette Église. Elle n'est pas parfaite. Voyez-vous, nul n'est parfait. Vous feriez mieux pour cette Église en priant qu'en la critiquant.
Alléluia.
Alors, prenez la décision, la résolution de commencer à prier désormais pour notre belle et merveilleuse Église qui nous a vus naître, qui nous a entretenus alors que nous n'étions que des bébés, qui nous a donné la mamelle hein, où nous avons, qui nous a allaités et qui a fait de nous ce que nous sommes. Et nous aimerions que cette Église fasse aussi des autres comme elle a fait pour nous.
Alléluia.
Que d'autres serviteurs s'élèvent, il y en a beaucoup. Et ma prière, c'est qu'il y en ait encore plus. Car l'œuvre, la moisson est grande, mais il y a trop peu d'ouvriers. Nous allons nous mettre debout pour terminer, si vous voulez bien, avec la joie de nous revoir au séminaire et puis le dimanche prochain, même heure, même endroit, avec le même Seigneur. Seigneur, nous voici au terme de notre culte, notre deuxième service. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Seigneur, tu as posé ta main sur nous. Tu nous as bénis par ta parole. Oh, aide-nous à grandir dans le domaine de la foi. Aide-nous, Seigneur, à saisir toutes les occasions que tu nous donnes pour pouvoir grandir dans la foi, avoir cette foi pleine et entière qui nous permettra d'accéder au sanctuaire, d'aller au-delà du voile. Car c'est cette foi qui te fait bouger. C'est cette foi qui t'amène à nous rejoindre là où nous sommes, dans nos problèmes, dans nos préoccupations quotidiennes. Merci pour tout. Pour tous ces bien-aimés, ce peuple que tu aimes et pour lequel tu es mort à Golgotha. Seigneur, ma prière est que tu bénisses cette semaine pour chacun de nous, que tu nous aides à demeurer en toi, que cette victoire que tu nous as acquise à Golgotha soit une réalité que chacun de nous va expérimenter. Seigneur, merci. Merci d'être l'alpha de cette semaine, mais aussi l'oméga de cette semaine, le commencement et la fin de cette semaine. Merci pour les différentes réunions, en particulier notre séminaire. Permet qu'il y ait tant de monde qui vienne, Seigneur, se réjouir dans ta présence, se réjouir avec toi autour de ta parole. Merci pour tout. Merci, Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur chacun de nous. Allons dans sa paix, demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Jésus. Amen. Excellente semaine et au plaisir.